prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, la racine et le fruit.
On va ouvrir notre Bible et puis suivre un texte qui nous est donné dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Alors c'est une histoire qui nous ramène dans un fait divers. Voilà, vous savez que les faits divers, il y en a toujours eu dans l'histoire des hommes. Il y en a tous les jours aussi chez nous et aujourd'hui. Alors, je rappelle Luc, chapitre 13, et on va commencer par le verset premier, tout simplement, on va lire deux petits paragraphes. En ce temps-là, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore 7 années. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Voilà pour l'histoire. Et il y a en fait, dans ces deux paragraphes, naturellement, deux histoires, deux récits. Je commencerai par la parabole du figuier, c'est-à-dire la deuxième partie, parce que Jésus l'a donné, étant donné que cette parabole est intimement liée avec le récit que nous avons lu en première instance, c'est-à-dire l'histoire de cette tragédie qui a vu la mort de plusieurs personnes et qui a suscité des questions. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ces hommes ont-ils été massacrés par les troupes de Pilate en ce qui concerne les Galiléens. Et comment se fait-il que ces habitants de Jérusalem, au nombre de 18, se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, quand la tour de Siloé leur est tombée dessus et qu'ils sont morts? Alors c'est vrai que tout cela, ça pose des questions aujourd'hui. Il y a quelques jours, dimanche dernier, les Américains en particulier, et puis le monde entier, on s'est souvenu de cette catastrophe, de ce qui s'est passé à New York il y a une dizaine d'années. On se dit, mais pourquoi ? C'est près de 3000 personnes qui ont été ensevelies là, dans ces deux tours. Puis ceux qui sont morts au Pentagone, et puis ceux qui se sont scratchés là, sur une forêt en Pennsylvanie, parce que les terroristes étaient partout. Alors c'est vrai que comment se fait-il qu'il y a eu 20, 25 000, 30 000 morts au Japon avec le tsunami. Puis avec les effets retards, parce qu'il n'y a pas que le tsunami, maintenant c'est les radiations qui vont perdurer pendant des décennies. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On pourrait multiplier parce qu'il ne se passe pas. Je pense à Haïti l'année dernière, et il ne se passe pas une année sans qu'il y ait des choses ici ou là, de grande envergure ou de moindre envergure, mais il y a des hommes qui disparaissent, il y a des enfants qui sont emportés, il y a des pauvres gens qui vont rester, dont la vie va être complètement brisée. Et c'est vrai qu'on pourrait toujours se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi cela ? Est-ce qu'ils n'étaient pas les plus grands pécheurs? Oh, si ça leur est arrivé, assurément, diront certains, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Hein. Autant chez les Américains, chez les Japonais, les Haïtiens, etc. etc. Ça ne nous arrive pas, nous aussi? Et si ça nous arrive? Peut-être en moins d'importance, mais... Alors, Jésus, justement, va bien expliquer la chose pour que nous le comprenions. Qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est juger. Mais une chose qu'il faut faire pour tous les hommes, ceux qui vont partir, ceux qui vont périr et ceux qui vont survivre, c'est qu'il faut se repentir. La chose, elle est claire. Et c'est ce que Jésus, justement, va nous dire. Parce que dans ce récit de l'histoire des Galiléens et des habitants de Jérusalem ensevelis, eh bien Jésus va expliciter la nécessité absolue du salut pour tous les hommes sans distinction. Que la mort les surprenne par l'effondrement d'une tour, hier, aujourd'hui. Que cela les surprenne à travers un tsunami ou une catastrophe nucléaire, ou à travers un tremblement de terre, ou à travers peut-être un accident collectif, un accident de la route collectif qui peut quelquefois faire, ou un accident d'avion, ou ceci et cela. Eh bien, nous voyons que la réponse que Jésus va donner, ce sont des paroles qui ne laissent aucune place à l'équivoque quant au sort du pécheur, quelle que soit la manière dont il meurt. Il y a des gens qui vont mourir brutalement, et puis il y a des gens qui vont mourir tranquillement dans leur lit. Mais quoi qu'il en soit, tous étaient des vivants, et aujourd'hui, bien, ils sont passés de vie à trépas. Et Jésus va donc expliciter les choses. « Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Ça ne veut pas dire de la même manière. Ça ne veut pas dire que... voilà, ceci ou cela. Mais ça veut dire que, de toute façon, ça veut dire tout simplement que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que si Jésus nous souligne que nous sommes interpellés à nous repentir, c'est qu'il ne peut y avoir de repentance que quand il y a péché. Quand il y a véritablement un état de perdition, où là nous prenons conscience que nous avons enfreint, que nous avons attristé Dieu, que nous nous sommes fait du mal, que nous avons fait du mal aux autres... quelle que soit l'importance du mal que nous avons fait, à qui que ce soit, à qui nous avons fait du mal. Et nous voyons que Jésus va être clair. Alors, on va examiner brièvement les circonstances, parce que c'est venu à la suite d'une conversation, qui met en avant l'interrogation. Et nous l'avons naturellement devant nous. Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé. Alors ils lui ont dit, mais Jésus, tu te rends compte? Cette histoire... Qu'est-ce que tu en penses? Alors, cette conversation, elle va nourrir notre réflexion aujourd'hui. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Et ça fait 2000 ans qu'on se pose les mêmes questions. Ça fait 2000 ans que les hommes cherchent, percent le mystère de savoir le pourquoi du comment et ceci et cela. Mais ça n'avance rien. Jésus va radicaliser la situation en disant, s'ils sont morts, c'est que véritablement, c'était des hommes de la même nature que les autres. Et c'était des hommes qui ne faisaient pas de différence avec les autres parce que finalement, une chose qui appartient à la nature humaine, à l'espèce humaine, c'est que nous allons tous mûrir. Enfin, humaine. Et puis, le vivant, on peut dire dans la généralité, les animaux, et voilà. Alors, on vient lui raconter cette histoire de ce massacre. De ce massacre parce qu'il s'agit de faits de guerre. Vous savez que la Palestine... était occupé par les Romains. Et on peut s'imaginer ce que peut être un pays quand il est occupé. Il y a des gens qui vont courber le dos en disant « Bon, attendons que la tempête passe et puis l'occupant, à un moment ou à un autre, il va partir. » Ou alors, comme ça s'est vu et comme ça se voit encore, c'est que l'occupant, est tellement... met tellement sous pression que ça lève une armée clandestine, ce qu'on appelle des partisans, des résistants. Puis je peux vous dire qu'ils sont actifs. C'est terrible parce que Ils risquent leur vie, mais on sait très bien ce que peuvent être finalement les représailles de sinistre mémoire dans notre pays. Quand il y avait des gens qui faisaient sauter les trains ou qui faisaient exploser je ne sais quel commandantour ou autre chose, l'occupant ne s'inquiétait pas trop pour savoir quand il retrouvait les auteurs. Mais quand il ne retrouvait pas les auteurs, il prenait les gens d'un village, il prenait les notoriétés, puis l'affaire était réglée. On en fusillait 10, 20, 30, c'était des innocents aussi. et payer pour les autres. Mais on peut toujours discuter sur la chose. Parce que l'homme était pris de liberté, et puis il veut recouvrer sa liberté quand il l'a perdue. Mais pourquoi l'a-t-il perdue? Enfin, bon, ce sont des questions qui n'en finissent pas. Et on s'aperçoit que ça devait être certainement très récent, ce phénomène de ces gens qui venaient de mourir sous l'épée de Pilate. Alors, ils venaient probablement d'être tout simplement massacrés. Et assurément, était en vigueur à ce moment-là, comme dans tous les temps, eh bien, la loi du plus fort, tout simplement, et on réglait les problèmes de cette manière. Hein. C'était assez expéditif. Hein. La tragédie était arrivée. C'est que ces rebelles avaient défié l'autorité en place, hein, l'aigle impérial, hein, Rome, et ils avaient, pour certains, commis un grand péché pour recevoir un tel châtiment. Dans l'esprit de certains, ils se disaient, mais oui, ils l'ont bien cherché. Bon, ils avaient certainement des raisons de se révolter, ils avaient certainement des raisons de ceci et cela, mais on les considérait certainement, pour ceux qui avaient des sentiments beaucoup plus pacifiques ou peut-être de collaboration, en disant, mais ils ont eu ce qu'ils méritaient. Voilà, tout simplement. La réponse de Jésus, donc, nous l'avons dit et je le répète, est significative. Et il va le dire, il va renvoyer la question en quelque sorte. Il va dire, mais vous, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que c'était des plus grands pécheurs? Est-ce qu'ils avaient commis quelque chose? C'est sûr que c'était des hommes qui avaient répandu le sang. C'était des hommes qui étaient partis là dans des coups de main, des coups de force, et qui non seulement risquaient leur vie, mais risquaient la vie des autres. Non seulement de l'ennemi, mais peut-être de leurs compatriotes quand il y avait des représailles. Donc ils avaient perdu la guerre, ils avaient perdu la vie, les armes à la main. C'est peut-être assez compréhensible, c'est vrai, et aujourd'hui, tous ceux qui ont appartenu à la résistance, eh bien, c'est honoré, on dit, ce sont des martyrs, hein, et on les honore comme des héros, aujourd'hui, au regard de l'histoire, naturellement. Et puis, Jésus va, lui, enrichir un peu la conversation. Il va dire, mais ou bien ces 18 personnes, sur qui elle est tombée, ou sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle a tuée? C'est sûr que si à chaque fois qu'on se met au coin d'une maison, d'une tour, on pense qu'on va mourir parce qu'il y a une pierre qui nous tombe sur la tête, on va rester au milieu de la rue. Hein. Mais ça, c'est l'effet des tremblements de terre, c'est l'effet de bien des choses. Hein. Et Jésus le dit. On sait que les Juifs de Judée avaient le mépris des autres, de leurs compatriotes juifs de Galilée. Voilà. Parce que c'est bien marqué. Hein. Les uns, c'est en Galilée, ce sont des résistants, des hommes de guerre. Et puis là, ça se passe à Jérusalem. Parce que c'est pour bien montrer, et Jésus va souligner un petit peu, que dans la nation juive, il y avait, c'est vrai, les résistants, il y avait ceux qui étaient peut-être du côté de l'occupant, et puis il y avait donc là, les Galiléens qui étaient mal vus par les gens de Judée. Et or, il y a deux catastrophes, et Jésus le rappelle, une catastrophe donc en Judée, qui va tuer les Galiléens, et une catastrophe en Judée. Alors, vous savez, ça met tout le monde d'accord. Hein, parce que, est-ce que ce sont les Galiléens qui sont plus mauvais que les Juifs? Regardez, vous avez des Juifs qui viennent de mourir sous un fait naturel. Une tour qui s'écroule, vous vous rendez compte? Et on se pose la même question. Alors Jésus, afin de dissiper tout orgueil et malentendu, fait allusion cette fois, donc, à cette catastrophe naturelle survenue à Jérusalem où 18 personnes innocentes ont trouvé la mort lors de l'effondrement d'une tour. Que les autres soient morts par fait de guerre, on comprend, ils ont provoqué un petit peu les choses. Mais celui qui se met à l'abri un petit peu à l'ombre d'une tour et que ça lui tombe sur la tête, c'est vraiment des innocents. Jésus dira, ni les uns ni les autres sont de plus grands pécheurs, mais ni les uns ni les autres sont des innocents. C'est comme ça. Parce que l'innocence, on l'acquiert, non pas par ses propres vertus, mais l'innocence, elle nous est donnée par la foi en Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de nous déclarer innocents, où notre culpabilité est enlevée, où nous sommes réhabilités devant Dieu, et que nous devenons finalement eh bien, des hommes où la grâce de Dieu a passé sur nous, sur notre vie, et ça change tout. Donc, Jésus fait comprendre ou entendre que la mort qui a frappé les uns et les autres n'était pas le résultat d'un jugement propre à ces personnes. Quelquefois, on est très vif ou très spontané dans le jugement, en disant « voilà, c'est ceci, c'est cela, on y va hein, », sans trop finalement rentrer dans les détails. Ou quelquefois, même parfois dans le monde chrétien, on se sert du nom de Dieu pour dire « eh bien, c'est Dieu qui les a jugés ». Moi, je me souviens qu'en lisant l'évangile de Jean, Jésus nous dit bien qu'il n'est pas venu pour juger les hommes, il est venu pour les sauver. Maintenant, la question n'est plus entre les mains de Dieu, c'est entre les mains des hommes pour savoir s'ils veulent ou non être sauvés. Toute la question est là. Alors c'est vrai que c'est quand même assez complexe, hein, ces questions que nous nous posons, parce que parfois ça a tendance à nous amener nous-mêmes, parce qu'on voit des situations qui nous apparaissent comme des situations de jugement, qui plus est des jugements de Dieu, de dire « ah ben moi je ne suis pas comme eux, donc je suis meilleur qu'eux ». Imaginez-vous un petit peu le labyrinthe dans lequel donc on pense qu'on est meilleur. Ben vous savez, je voudrais vous dire qu'il y a des hommes et des femmes, même parmi les chrétiens, même parmi les meilleurs, eh bien je peux vous dire, il leur arrive aussi des catastrophes. Il y a à peine quelques mois, un homme de notoriété mondiale que nous connaissons bien dans nos mouvements, le pasteur David Wilkerson, au volant de sa voiture, se fait tuer par un camion. Il était relativement jeune encore. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas péché? Est-ce qu'il n'aurait pas ceci et ce? Est-ce que ce serait Dieu qui l'aurait jugé? Je vous donne un cas parce que ça nous intéresse, ça nous concerne, puisque c'est quand même un chrétien de chez nous et qui quand même avait une certaine aura. Alors, voilà, hein, c'est difficile. Et Jésus va dire, mais ils n'étaient ni les uns en haut, en Judée, résistants, ni en bas, les pauvres gens sur qui les pierres sont tombées, eh bien, ils n'étaient ni plus ni moins de plus grands pécheurs, ni plus ni moins coupables que le reste des hommes. Jésus va leur dire, leur faire entendre, ils étaient tout simplement des pécheurs, voilà tout. Parce que tous les hommes sont ainsi. Et qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Il était ni plus ni moins que les autres. Dans ces deux cas de mort violente, parce que ça pose la question, la mort violente. Quelqu'un qui s'éteint paisiblement dans son lit, on se dit, bon, il a fini sa vie, surtout quand on arrive à un certain âge, enfin l'âge, voilà, où il est temps à un moment donné de partir, parce que de toute façon, personne ne reste. Mais la mort violente, ça pose des questions. Parce que c'est anormal. C'est assez dramatique, ça. Il y a quelqu'un qui est bien portant, et puis du jour au lendemain, en une seconde, et bien voilà, ça y est, c'est parti. Les morts violentes aussi, ça existe par l'effet de guerre, on en a parlé, mais quelquefois les assassinats aussi. Vous savez, dans la Bible, il y a des histoires. Ça ne devrait pas être écrit comme ça, mais c'est l'écrit pour des assassinats, des rois d'Israël qui sont assassinés. Hein. Alors, ils n'avaient peut-être pas tout fait tout bien, hein, mais on le voit, ça aussi. Hein. J'essaie de comprendre un petit peu les réalités de notre monde d'aujourd'hui, parce que le jugement n'a jamais changé. Hein. Les temps peuvent passer, le cœur de l'homme est toujours prêt à juger. Mais il y a une chose qu'il oublie, et une chose que la majorité des gens oublient, voire peut-être quelquefois nous en faisons abstraction nous-mêmes, mais enfin on est un petit peu plus sensibilisés à la question, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est à souligner, qui est marqué noir sur blanc, lettre de feu, à travers toute la Bible, c'est la prise de conscience de notre perdition, la prise de conscience de notre fragilité humaine, de notre précarité, le souffle que nous avons, qui peut être enlevé à un moment ou à un autre, et qu'il faut régler véritablement eh bien, les choses avant que la soudaineté, avant que la catastrophe, avant que l'accident ou autre chose ou la maladie nous emporte. C'est une mesure préventive, nous pourrions dire. Quand il est dit à un moment donné, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est dans Amos. Et si nous y pensons, moi je pense qu'il est chrétien, il pense assez souvent qu'on peut partir à un moment ou à un autre. Et on n'évacue pas la notion de la mort, la pensée de l'amour, l'évidence de la mort. Bon, ça m'arrive d'y penser assez souvent, parce que c'est comme ça tout simplement. Mais la différence c'est que si le chrétien y pense et s'est préparé et est prêt, en tous les cas on s'aperçoit que de l'autre côté, c'est-à-dire les gens sans espérance, eux évacuent la pensée. Il ne faut surtout pas leur parler. Ouh là là, c'est redoutable. Ils le voient bien, ils le constatent, ils le lisent dans les journaux, ils le voient à la télévision, parce qu'il n'y a que ça. Mais c'est toujours évacuer, hein, on ne veut pas y penser. Et pourtant, si Dieu a donné cette pensée qu'un jour ou un autre, nous allons mourir, c'est pour que nous puissions nous préparer. C'est pas pour que véritablement, eh bien, nous allions à la condamnation et à la perdition, mais que nous puissions vraiment nous mettre en règle. Et il nous a donné tous les moyens pour cela. Tout est prêt. Tout est à notre disposition. Alors, nous voyons que Jésus énonce, sans exception aucune, que tout homme qui ne se repent pas périra également. Alors on comprend ces paroles, que ce n'est pas par seulement des faits de guerre, ce n'est pas parce qu'il va y avoir des catastrophes naturelles, mais une chose qui est certaine, c'est que nous mourrons tous. Je me souvenais d'un texte cette semaine, parce que j'ai eu à écrire une lettre de condoléances à des amis, et je me souviens, il nous est dit, mais combien elle est précieuse, la mort de ceux qui aiment Dieu. Je crois que c'est dans le proverbe ou le psaume. Et c'est vrai que, pour nous montrer que Dieu, pour ses enfants, eh bien, la vie des enfants de Dieu a de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, combien elle est précieuse, cette vie. Voilà. Et je pense qu'elle devrait être prise en considération aussi par le monde dans lequel nous sommes et qui fait n'importe quoi, qui se livre à n'importe quoi. Moi, quand je vois les risques, alors que nous avons une seule vie, que certains hommes, particulièrement la génération dynamique et pleine d'aventures ou aventurières, prennent des risques dans les sports, automobiles ou autre chose, monter les montagnes, grimper dans ceci, cela, etc., etc., je me dis, mais est-ce qu'ils mesurent qu'ils n'ont qu'une vie, ou sur une moto à toute vitesse, pour se donner un petit peu de sensation? Je me dis, mais moi, ça m'arrive quelquefois, comme vous d'ailleurs, de me faire doubler par des motos. Je ne les vois pas, j'entends le bruit. Hein. Ils sont passés. Je me dis misère. S'il n'y a pas d'obstacle, je me dis mais quand on sait la valeur de la vie, quand on sait l'importance que cela, alors pour nous, peut-être qu'on n'en fait pas trop de cas pour notre propre vie, mais nos parents, nos amis, parce que quand on se retrouve à ce moment-là dans la situation de catastrophe, et que l'on fait la dernière visite ou le dernier voyage, je peux vous dire que c'est terrible pour ceux qui restent. Affreux. Je crois que on joue avec la mort. Ouais, on joue avec la mort. On brave et on se dit, mais ça ne peut pas m'arriver à moi. Et c'est pourquoi Jésus dira, mais attention, il y a quelque chose. C'est que il faut se mettre en règle, il faut que les choses soient préparées. Parce que ça peut arriver à un moment ou à un autre. La manière importe peu de mourir. Bon, vaut mieux mourir sans souffrance. Hein. J'espère que je ne vais pas vous décourager cet après-midi. Oh, non, mais je ne dis pas ça pour ça. Oui, la manière importe peu, la meilleure des façons. Mais la réalité demeure, quoi qu'il en soit. Et c'est pour cela que dans le verset 3 et 5, il nous est dit deux fois. Et quand Jésus nous dit en vérité dans d'autres textes, mais comme il nous le rappelle, sous cette forme-là, mais deux fois, ça veut dire que de toute façon, ça c'est une vérité intangible, quoi qu'il en soit. Non, je vous le dis, dit Jésus, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Tous également. Les manières, peu importe, les formes, peu importe, mais une chose qui est certaine, c'est que quand un homme rend le dernier soupir, eh bien c'est fini, c'est terminé. C'est ça ce que Jésus veut dire. Et après, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors il y a deux destinations à ce moment-là. Jésus dévoile que derrière la mort, il y a pour les uns le salut éternel, avec tout ce que la Bible nous enseigne de la dimension des croyants, là où ils sont, là où ils seront recueillis, là où nous serons recueillis et accueillis, qui n'a rien à voir avec cette vie, qui ne porte qu'un nom, quelque part diminué et dévalorisé, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'existence. Mais la vraie vie, eh bien, c'est celle qui nous est réservée dans l'autre dimension, et pour les autres, la perdition. Alors, ça ne choque pas beaucoup les gens. Hein. Perdu, sauvé, ça n'interpelle pas. Par contre, s'ils perdent quelque chose, leur argent, leur santé ou leur travail, hein. Mais il y a bien des choses que l'on peut perdre et qui n'est pas la mort d'homme, hein. Ce n'est pas une mort d'homme, Mais il y a des choses qui sont... La chose qui est la plus importante, c'est de savoir que, finalement, quand on meurt, on peut perdre tout le reste. Hein. D'ailleurs, on perd tout le reste. Et là, on n'en fera plus rien, hein, naturellement. Donc, mourir perdu, on pourrait le résumer de cette manière, ou mourir sauvé, c'est quand même deux choses différentes. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ça se sent, ça se voit, ça se comprend. Quand un homme qui croit en Dieu part, un homme ou une femme, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le même contexte. Ouais. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous accompagnez quelqu'un qui n'a pas d'espérance, c'est terrible. C'est affreux. C'est pour ça que la mort, à ce moment-là, revêt un caractère épouvantable et sordide. Tout dépend où on situe notre âme et notre esprit. Pour beaucoup, l'âme et l'esprit n'existent pas. Alors, qu'est-ce qui reste? Le corps. Et c'est sûr que là, ça, quand on voit un petit peu les conséquences sur le corps de la mort, c'est certain que c'est vraiment pas engageant. Mais ça, ça fait une grande différence. Périr à la vie physique et périr à la vie spirituelle, nous parle la Bible. Là aussi, il y a quelque chose. Le corps, l'âme et l'esprit, dont l'évidence de cette nécessité absolue que Jésus place au cœur et en introduction même de son évangile, lorsque dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que le royaume s'est approché de vous, repentez-vous. Voilà, c'est ça. C'est la primeur, c'est le cœur même de son message. Repentez-vous. Jésus ira même plus loin. Il dira à ses auditeurs du moment, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, me semble-t-il, il dira ceci à ses adversaires, parce que c'était ses détracteurs. Hein. Il dira, mais vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Donc maintenant, c'est beaucoup plus ciblé. C'est non seulement de croire que finalement, on peut croire en Dieu, mais le salut et le refus du salut, le reniement de la proposition de Dieu, eh bien, c'est tout simplement la personne de Jésus, si vous ne croyez pas qui je suis. Repentance, conversion, mais également une nécessité de rentrer dans une nouvelle vie ou d'une vie nouvelle. Ce sont les étapes. Et nous allons le voir maintenant brièvement à travers la deuxième figure. Je voudrais simplement dire quelques mots sur cela. Le grand apôtre de l'Évangile que nous connaissons sous le nom de Paul fait ressortir cette marque d'authenticité pour quiconque se veut être chrétien. Et c'est une marque de reconnaissance et d'authenticité, c'est-à-dire non seulement la repentance, première étape, la conversion, c'est-à-dire de suivre Jésus, mais d'une vie nouvelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, Paul écrira, pour que ça soit bien marqué, et qui met aussi certainement chaque prédicateur en face de sa responsabilité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, lorsqu'il annonce le royaume de Dieu, ce n'est pas autre chose que cela. Et il le dit. « J'ai prêché la repentance, dit-il. » Voyez, en priorité. « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, mais pas seulement, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Parce qu'il y a des gens qui peuvent se repentir, mais c'est lié à la peur, au remords ou au regret, mais ça n'a jamais été une véritable repentance. La véritable repentance, c'est d'avoir contristé Dieu. C'est de l'avoir blessé, d'avoir pris conscience que finalement, eh bien là, nous avons été en dehors du principe naturel pour notre vie. Et de cette vie qu'il nous a donnée pour que nous puissions être heureux, et que nous avons fait tout le contraire, et que nous avons enfreint finalement. Eh bien ce qu'il avait préparé avec amour pour nous, et que nous en sommes sortis, pour prendre des chemins de traverse et toutes sortes de choses. Et Paul le dira, mais quand je prêche, le corps même de mon message, eh bien c'est la repentance, c'est la conversion à Dieu. Et s'il y a repentance, s'il y a conversion à Dieu, il faut que ça soit fait dans des œuvres dignes ou des fruits dignes de la repentance. Parce qu'on peut toujours dire « je suis Jésus », on peut toujours dire « je me suis repenti » et que l'on reste à l'état intact d'un état pécheur, finalement sans rien avoir changé. Donc il y a naturellement eh bien, cette progression. Parce que c'est avant tout un témoignage de vie transformée qui se vérifie. Nous on peut le dire, mais les autres vont s'en apercevoir. Hélas, quelquefois, on voit des gens qui, même parmi les enfants de Dieu, qui ont la foi pour croire en Jésus, c'est vrai, qui ont eu la foi même pour être guéris, pour faire des expériences, qui peuvent dire, eh bien, moi j'appartiens à Jésus, je le suis, et dont la vie est une véritable contradiction, à travers toutes sortes de choses qui n'ont pas été rectifiées, ou qui n'ont pas laissé à Dieu le soin de régler, ou qui n'ont pas voulu régler, à travers des paroles, à travers des comportements, à travers peut-être un fond de vieille nature qui ressort de temps à autre parce que ça les arrange ou c'est leur intérêt ou je ne sais quoi. Une mentalité. Être un homme nouveau. Ça, c'est important. Nous en arrivons brièvement et quelques mots pour nous montrer la nécessité de tout cela. À la parabole donc qui fait suite, qui a précisément pour objet de démontrer que si la repentance sincère est la porte du salut, on l'a vu, cette expérience doit être accompagnée, pour être crédible, de preuves irréfutables de transformation. Alors là, nous en arrivons à la notion d'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Qui constitue l'Église ? Par qui est-elle constituée, si vous aimez mieux ? Qu'est-ce que l'on peut trouver dans une Église ? Qu'est-ce que le véritable christianisme ? Qu'est-ce que l'on peut attendre, finalement, de gens qui sont des disciples de Jésus ou des suivants de Jésus, des enfants de Dieu ou des ce que voudrait. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'ils nous disent qu'ils se sont repentis, qu'ils nous disent qu'ils se sont convertis. Mais ce que le monde va voir, ce que le monde va observer, parce que là nous devenons des témoins à ce moment-là, nous devenons visibles, nous devenons transparents, même si nous avons une période d'opacité dans notre vie auparavant, à cause de finalement du péché et de notre nature. Mais là, nous devenons visibles pour tous. Et Jésus nous a demandé d'être visibles. Il nous a dit, vous êtes la lumière. Alors la lumière, c'est tout à fait approprié pour comprendre l'image, naturellement. Alors elle doit être accompagnée, naturellement, parce que c'est une affaire de crédibilité pour nous, à moins que nous soyons des gens qui nous nous moquons de tout, nous nous moquons de nous-mêmes, et que nous ne nous attachons qu'aux apparences. Et puis va que je te pousse, c'est pas grave pour la suite. Mais c'est pas seulement nous que nous mettons en cause, si nous n'avons pas trop d'honneur pour nous-mêmes. Mais nous mettons en cause celui que nous représentons, celui que nous présentons aux autres, qui est Dieu. Et pour cela, eh bien, cette crédibilité doit être étayée par des preuves irréfutables de transformation. Alors je sais que l'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas parfaite, et elle est loin d'être parfaite. Il faut le dire, il ne faut pas l'oublier, parce que ce serait une erreur de l'oublier. Mais néanmoins, la Bible nous fait entendre que nous sommes des êtres perfectibles, nous sommes sur le chemin de la perfection. Et tant que nous serons là, nous resterons encore des pécheurs. C'est vrai, des pécheurs pardonnés. Nous comptons sur la grâce pour qu'il nous élève dans ce sens, dans cette élévation de transformation, de régénération, et que véritablement, eh bien, on puisse dire, eh bien, il était ainsi, il n'est plus comme ça. Il a bien changé, ou elle a bien changé, parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'être chrétien, c'est vivre et agir selon le modèle que nous avons en Jésus et selon ses enseignements. Et un chrétien qui vient à l'église et qui entend les enseignements et qui n'en fait rien, là, il y a un problème, il y a une difficulté. Quelquefois, ça nous arrive de nous poser la question avec certains, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Moi, je peux me remettre en cause, je me dis, est-ce que j'ai bien expliqué ? Est-ce que j'ai bien dit ? J'essaie de faire tous mes efforts pour que ce soit. Moi-même, je me mets aussi quelquefois, je suis aussi dans la faiblesse, mais je veux dire, on se dit, dans des comportements, dans des réactions, on se dit, mais ils n'ont rien compris. Alors, c'est quand même assez préoccupant. Jésus a un jour pris ses disciples et leur a montré le chemin. Et dans un texte de l'évangile de Jean, Jésus leur a dit, il y a une chose par laquelle les gens vont vous reconnaître. C'est pas parce que vous allez clamer votre foi, le royaume de Dieu, que vous allez porter des badges devant, derrière, en disant « Je suis chrétien, j'aime Jésus ». Et vous savez, toutes les décorations qu'il y a actuellement, il y en a qui aiment ça, bon, ça les regarde. Mais Jésus dit, voilà, ça convainc le monde. Comme Jésus a convaincu le monde, même s'il a été rejeté par un torrent épouvantable de haine, mais toujours il dit, et moi j'aime bien cette parole, il dira ceci, ne l'oublie jamais, mes disciples, mes amis. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Là, c'est la preuve de la transformation. Les hommes haineux, des hommes qui n'avaient rien à faire de ceci ou cela, sont devenus des êtres aimants. Nous n'étions pas aimables auparavant, mais Dieu nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, nous avons fondu devant son amour et nous sommes capables d'aimer les autres. Et même ceux qui ne nous aiment pas. Ça, c'est un tour de force, hein, c'est un miracle. C'est pour ça que cette parole, elle est belle. Tous reconnaîtront si vous vous aimez les uns les autres. Et c'est formidable parce que nous sommes impliqués dans la société, dans sa généralité, hein. Mais quel comportement nous pouvons avoir dans nos entreprises, dans nos écoles, dans la société d'une façon ou d'une autre, hein, dans nos propres familles, si nous sommes comme des chats ébouillantés. Une griffe, toute sortie. Voilà. Parce qu'on vous a fait une réflexion sur votre foi, ou on vous a dit quelque chose, etc. Si vous êtes comme ça, souvenez-vous de la parole. C'est ainsi qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous griffez les uns les autres. Eh oui, c'est l'attitude de cœur. C'est ça ce que Jésus... C'est pour ça que, quelquefois, on veut faire bonne mine, mais bon, c'est plus fort que nous, hein, c'est épidermique. Surtout quand on a des cors aux pieds et qu'on écrase votre chaussure. Ça fait mal. Ouais, ouais. Ailleurs, dans le livre des Actes, au chapitre 4, il nous est dit... Pour vous dire que ça marchait, hein. Jésus leur avait donné conseil, je crois que pour la plupart ils l'avaient suivi, et à un moment donné, quelque temps après, il nous est dit dans le livre des Actes, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et quand on a été avec Jésus, quand on est avec Jésus, on doit porter l'image de Jésus, on doit amener la douceur de Jésus, on doit pouvoir communiquer l'humilité de Jésus. Moi je suis chrétien, regardez, il n'y en a pas deux comme moi. Hein. Jésus n'était pas comme ça. Lui qui ne brisait pas le roseau cassé. Ouais, qui ne criait pas dans les rues. Mais il y a des chrétiens, dites donc. Je suis chrétien, vous avez vu, je suis chrétien. C'est vrai, hein. Ouais. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand on est avec Jésus, eh bien, de toute façon, on ne peut pas en sortir indemne. C'est bien, c'est formidable. Le mal s'en va et le bien rentre. C'est pour ça que repentance, d'accord, la porte d'entrée. Ensuite, conversion, d'accord. Mais maintenant, il faut une transformation de vie. Tels aussi doivent être les disciples d'aujourd'hui, parce que ça n'a pas changé. Hélas, il y a malheureusement, dans ce monde, ce christianisme dans sa généralité, l'apparence sans le fond. Et c'est bien ce qui fait causer, c'est bien ce qui fait critiquer, c'est bien ce qui fait hurler les gens. Ne me parlez pas de Dieu quand je vois comment les gens se comportent, comment les chrétiens se comportent. Avec leur argent, avec leur histoire, avec ceci et cela. C'est bien là que porte la plus sévère critique contre le christianisme. Ben oui. Aujourd'hui, vous savez, si les gens ne poussent plus les portes des églises, c'est parce qu'il y a eu trop de choses. Vous savez, on ne va pas jeter la pierre, hein. Mais quelquefois, quand on voit ces scandales qui défraient la chronique de ces gens qui se permettent toutes sortes de comportements, soit avec l'argent, avec les enfants, vous savez, on parle d'un scandale en ce moment. Hein. Oh, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Avec les petits-enfants, vous savez, auxquels on confie pour une certaine éducation. Puis finalement, c'est une autre éducation. Hein. Puis toutes sortes de choses. Alors on comprend que les gens disent, ne parlez pas de Dieu, hein, c'est pas la peine. Vous perdez votre temps. C'est pour ça qu'ils sont tous pécheurs, Jésus dit, mais ils sont tous. Si vous ne vous repentez, personne ne sera sauvé. Dans le fameux discours du sermon sur la montagne, et là ce sont vraiment des vérités pratiques, Jésus pose pour notre jugement le principe de la vérité contre celui de l'épreuve, de l'erreur, pardon. La vérité et de l'erreur. Dans Matthieu 7, il est dit ceci, c'est une réflexion. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors vous savez ce que c'est que le raisin? Et si un jour vous trouvez des bananes sur une vigne, ben vous viendrez me voir. Hein. Oui, parce que là, il y a un problème génétique, enfin de, je ne sais pas moi, comment on peut dire, c'est dans les gènes. Hein. Ou le contraire. Hein. Moi, ce que j'aime bien chez Jésus, parce qu'il prend des images fortes, des images simples. Et elles sont fortes parce qu'elles sont simples. Ça nous fait sourire. Mais quelquefois, on s'aperçoit que dans la vie de prétendus chrétiens, eh bien, c'est véritablement une dénaturation, on pourrait dire. Chaque espèce produit le fruit ou du fruit selon sa nature. Tout arbre, dira-t-il, porte de bons fruits, Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ça, c'est important. C'est souligné à travers, justement, ces deux petites histoires. En d'autres termes, le fruit n'est que le résultat de ce qu'est déjà la racine, le tronc et les branches. Et qu'est-ce que nous sommes dans notre vie physique, dans notre vie morale et dans notre vie spirituelle? On pourrait peut-être donner l'analogie, hein, et faire le parallèle en tout ça. Un chrétien se veut d'être, eh bien là, le représentant de ce sauveur dans son corps, dans son âme, avec sa mentalité et ses sentiments. Si c'est de la haine, c'est autre chose. Puis dans sa vie spirituelle, Jésus n'a jamais été un illuminé. Quelquefois, on le voit, pour être plus spirituel que les autres, il y en a qui marchent sur la tête, qui marchent au plafond et qui font des... Mais c'est aberrant aussi. Voilà, l'arbre et son fruit. Il faut se méfier de tout ça. Pour les hommes, sous le regard de Dieu, c'est la même chose. Les paroles sales, malhonnêtes, le mensonge, les pensées de haine, la jalousie, la colère, la violence, la fausseté, le mauvais caractère. Vous allez me dire, c'est pas grave le mauvais caractère. C'est pas grave, tout le monde a un mauvais caractère. Hey. Hein? Ne sont que le produit, nous dit Jésus, que le fruit, le reflet de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur. Et vice-versa. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu chapitre 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça sort bien de quelque chose, de quelque part. Donc, si c'est sur la bouche, sur les lèvres, c'est parce qu'il y a dans le cœur. Vous savez, on n'a pas besoin de presser longtemps, hein, quand quelqu'un a de la haine, hein, contre une autre personne. C'est pas la peine de lui dire, mets-toi en colère. Ça sort tout seul. Parce que ça sort spontanément de l'intérieur du cœur. Voilà. C'est une image que Jésus nous laisse. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y avait encore toute la... Mais on va s'arrêter là, parce que je pense que c'est bien de nous montrer un petit peu cette progression, parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus lit-il l'histoire du figuier stérile avec ce qui précède, quand il a dit, mais il faut que tous les hommes se repentent, hein, c'est tout à fait normal. Parce que l'arbre est le fruit, mais aussi l'arbre sans le fruit. Et c'est tout le prolongement de la parabole du figuier, parce qu'on s'aperçoit en deux mots, que finalement il y a un cultivateur, un vigneron, il est propriétaire de son champ, il y a une vigne, mais il y a un figuier. Et à un moment donné, il s'intéresse à ce qu'il porte du fruit. Et puis il vient une fois, une année, une autre année, une autre année, puis il ne trouve rien. Alors à un moment donné, il va dire tout simplement à son vigneron, à son métayer, il va dire, eh bien maintenant coupe-le parce qu'il ne donne rien. Le métayer, il va dire, non, laisse-le encore un peu de temps, je vais l'amender, je vais lui donner ceci et cela. Parce qu'il occupe le terrain inutilement, tu vas le couper. Il y a encore un temps probatoire, c'est la grâce que Dieu nous donne à ce moment-là. Et je ne sais pas après la fin de l'histoire, si véritablement il a porté du fruit, mais s'il a porté du fruit, c'est que véritablement il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Mais il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Alors, c'est pour cela que le verdict, eh bien, tombe comme dans la première parabole, s'il ne se repent pas, s'il n'y a pas de progression, s'il n'y a pas d'amélioration, eh bien, ça sera terminé. Et ça, c'est pour tous les hommes. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Une simple réflexion pour nous montrer que, eh bien, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est pas une aventure que l'on prend à la légère, mais c'est véritablement un engagement qui va nous amener à être des êtres, des hommes, des femmes, complètement et entièrement changés par la grâce de Dieu dans laquelle nous avons mis toute notre espérance et par la foi. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore à l'évidence, en effet, Seigneur, que lorsque tu regardes le monde, tu le vois dans sa totalité. Tu regardes et tu vois des hommes qui sont semblables les uns avec les autres, même s'il y a des différences extérieures. En tous les cas, le cœur, eh bien, c'est un cœur qui est véritablement, Seigneur, qui a un point commun, c'est tout simplement le mal et le péché. Et puis à partir de cela, Seigneur, eh bien, tu as envoyé eh bien, une parole. C'est la parole du royaume de Dieu, de l'Évangile. Et au cœur de cette parole, il y a véritablement une injonction. Ce n'est pas en effet un jugement, au contraire. Ce n'est pas une condamnation, Seigneur, au contraire. C'est une invitation à nous repentir, à la repentance pour tous les hommes. Eh bien, nous voulons, Seigneur, te demander, Père éternel, que cette notion de repentance vienne dans le cœur de tous ceux, de toutes celles qui nous entourent, parfois même dans le cœur des enfants de Dieu, peut-être même dans notre propre cœur. Mais une chose qui est certaine, c'est que si l'homme veut se repentir par lui-même, ça ne sera jamais une véritable repentance. Par contre, si c'est l'Esprit de Dieu qui le convainc de péché, de justice et de jugement, qui l'amène véritablement à une contrition véritable, oui, Seigneur, profonde d'avoir offensé Dieu, et que là, sous l'action du Saint-Esprit, un homme pleure sur ses fautes, sur sa vie, sur sa misère, sur son indigence, sur sa destination, en effet, prévisible, prend conscience qu'il est perdu, alors, à ce moment-là, il va crier à toi, il va appeler un sauveur, et ce sauveur est déjà là pour le sauver. Nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, ce que nous voulons te demander, Seigneur, pour tous ceux qui sont autour de nous, pour notre monde, pour ces hommes, Seigneur, ça c'est le rôle de l'Église. Envoie un esprit de supplication et de repentance sur ce monde. Oui, Seigneur, parce que tant de gens sont dans l'ignorance. Tant de gens veulent rester, Seigneur, dans l'ignorance. Tant de gens veulent, eh bien, font de la dénégation, Seigneur, par rapport, Père éternel, eh bien, à la vie et à la mort, Seigneur, dans le nom de Jésus. C'est l'Esprit de Christ qui convainc de péché, de justice et de jugement. Eh bien, qu'il en soit ainsi, nous te le demandons et nous te remercions, Seigneur, parce que la grande parole que tu nous as laissée, c'est tout simplement, eh bien, tu nous dis, en effet, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Tu as été élevé, Seigneur, c'est fait maintenant. Eh bien, maintenant, nous te demandons que par ton Esprit Saint, par ta parole, d'une manière ou d'une autre, il y ait dans la semaine qui vient, dans les jours qui vont venir, dans les temps qui vont venir, des hommes et des femmes nombreux, ici ou ailleurs, partout, Seigneur, qui soient saisis d'une véritable, eh bien, Seigneur, action de repentance par le Saint-Esprit. Et ils vont venir à toi. Et nous te remercions et nous te bénissons, te demander pardon, se convertir, et puis également désirer qu'en effet, eh bien, Seigneur, ce soit des arbres qui portent des bons fruits, Seigneur. Et nous te bénissons, et c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Nous t'en bénissons et nous te remercions, parce que nous savons que tout ce qui peut arriver, survenir dans le monde, les catastrophes dont nous avons parlé, eh bien, Seigneur, ce ne sont pas parce que ce sont des plus grands pécheurs que nous, ou le reste des hommes, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont semblables à tout le reste de l'humanité, le salut de Dieu, et pour tous ceux, eh bien, Seigneur, qui sont perdus, tout simplement. Et tu es venu l'offrir, tu es venu le donner. Alors, le moyen de le saisir, c'est tout simplement de croire que Jésus est mort pour moi, qu'il est mort pour les uns, les autres, et de lui dire tout simplement la parole que tu attends. Oui, Seigneur Jésus, je t'accepte et je te prends comme mon sauveur personnel. Je crois en ton sacrifice et je crois en ta rédemption pour ma propre vie. Merci, Seigneur. Amen.